Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Jean-Michel Ferragati. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Stéphane.
Alors, de 2009 à 2016 sur comicbox.com, tu as animé la rubrique French Collection avec plus de 300 articles sur l'histoire des comics. En 2016, tu as sorti le livre L'histoire des super-héros, les publications américaines en France chez Neofelis Éditions. Et depuis 2015, tu scénarises les trois tomes de Center Chronicles, une série d'albums financés via les crowdfunding sur la plateforme Ulule. Et c'est justement pour le troisième tome de Center Chronicles que nous sommes ensemble ce soir, puisque le crowdfunding va s'arrêter d'ici, je crois, 3 jours, dans 3 jours, au moment où nous enregistrons. Et donc, j'étais curieux de te recevoir pour te poser quelques questions au sujet donc de ce tome 3 de Center Chronicles. Merci Jean-Michel Ferragati d'être avec nous.
Mais avec plaisir.
Alors, est-ce que tu peux, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout Center Chronicles, nous expliquer l'intrigue générale de cette histoire?
Alors, l'intrigue générale de Center Chronicle part d'un événement qui est une explosion au cœur de New York et la découverte par un œil flottant d'un personnage agonisant. Et cet œil flottant va ensuite chercher un autre personnage dans un appartement new-yorkais et lui demande de venir enquêter sur cette explosion. Et ce deuxième personnage lui dit, ben non, tu sais bien que nous, on peut plus se déplacer et que je ne peux pas venir. Mais quand il apprend quelle est l'identité de ce personnage qui a subi un attentat, il décide malgré tout de sortir d'une certaine retraite et d'aller enquêter. Et on va découvrir que dans ce monde, il y a des personnages surpuissants qui, à une époque, ont eu une activité, mais qui, pour une raison que l'on apprend au fur et à mesure des épisodes, ont été forcés d'arrêter leur activité et donc reviennent un peu clandestinement au début de la série pour enquêter sur cet attentat.
Alors, avant d'aller plus loin et de parler de l'histoire probablement dite et puis de la manière dont tu as construit cette histoire de Center Chronicles, moi, la question que je voulais te poser, c'était comment tu as rencontré, enfin, comment s'est passée ta première rencontre avec Marty, le dessinateur de Center Chronicles?
Ouais, alors en fait, Marty, je l'ai rencontré d'abord via son travail, notamment sur des illustrations qu'il avait faites pour Chris Malgrin à l'époque, sur le projet The Formidables. Et ensuite, je l'ai rencontré à la Paris Comics Expo en 2014, en fin d'année 2014. On avait échangé quelques mails bah, pour lui parler du projet et voir si ça pouvait l'intéresser, en sachant que moi, c'était une recherche d'un nouveau dessinateur, puisque la version de Center Chronicle dont on parle est le troisième départ de ce projet. Le premier avait été fait très brièvement, c'était une couverture et une première page crayonnée avec Reedman. La deuxième avait été faite sous la houlette de John Favre, qui avait une petite maison d'édition avec Fred Griveaux. Donc là, on avait un épisode, le prologue, le premier épisode qui ont été publiés. Et le deuxième épisode qui était crayonné, mais qui n'a jamais été publié. Et donc, je recherchais un dessinateur dont le style pouvait coller à l'histoire. Et Marty me paraissait être un bon candidat. Donc, on a échangé par mail après que j'ai bien regardé ses dessins. Et puis, on s'est vu à la Paris Comics Expo. Et puis, on a commencé un petit peu à parler du projet.
Alors, Marty, si je ne me trompe pas, c'est aussi le dessinateur d'une bande dessinée qui s'appelle Hoplitea, qui est très inspirée d'ailleurs des comics. Et si je me souviens bien, c'est un dessinateur. Je me souviens de lui parce que quand j'ai lu Hoplitea, ce qui m'avait beaucoup surpris, c'était la manière dont son style évoluait entre le début d'Hoplitea et la fin d'Hoplitea.
C'est vrai. Donc oui, c'est lui qui dessine Hoplitea. C'est un projet Hoplitea qui était déjà assez ancien, parce que je pense que j'avais pas rencontré Marty directement, mais j'avais rencontré un autre dessinateur, parce qu'ils étaient plusieurs à travailler sur l'univers Hoplitea. Et puis Laurent Artaud, qui est le scénariste, donc je les avais rencontrés à un Comic-Con à l'époque où c'était hébergé par la Japan Expo. J'avais acheté les deux premiers tomes de Hoplitea. Et c'est vrai que ça se voyait que c'était un dessinateur qui progressait. Et ça se voit aussi dans le projet Center Chronicle, puisque bah, on en est au troisième tome. Marty dessine à peu près 50 pages par volume. Et donc, bah, entre le premier dessin qu'il a fait pour Centaure et celui qu'il a livré il y a maintenant déjà quelques mois, il y a des vraies évolutions. Donc ça se voit des fois à l'intérieur des volumes, comme tu le dis, et puis également dans l'évolution de chacun des volumes. Ouais, c'est clair.
Center Chronicle, c'était une histoire que tu avais depuis longtemps en tête?
Oui, c'est une histoire que j'ai depuis longtemps. C'est une histoire que j'ai, je dirais, formalisée dans les années 2010, 2012. Et comme tu le dis au début, en introduction, j'ai pendant des années écrit une chronique hebdomadaire pour comicsblog.com, pour Xavier Fournier. Et je racontais chronologiquement l'arrivée des comics en France en 1939. Et puis, eh ben, personnage par personnage, événement par événement, je remontais comme ça. Et puis, on était arrivé dans les années, début des années 70. Et les personnages de Centaur Comics, qui est un éditeur américain qui a eu une activité de 1936 à 1942, ils ont été publiés en français. Et donc j'ai découvert ces personnages qui sont quand même assez méconnus, même aux États-Unis. Et à ce moment-là, j'ai cherché de la documentation pour comprendre qui étaient ces personnages, quelles étaient leurs caractéristiques, les publications françaises étant éparses. Et il y avait quasiment rien. C'est moi qui ai quasiment écrit la première étude un peu structurée sur Centaure dans un fanzine qui s'appelle Omega de Didier Charnay. Et du coup, bah, à l'époque, la seule manière que j'avais eue de vraiment comprendre qui étaient ces personnages, c'était de lire les comics. Et il y a une grosse communauté de fans de Centaure aux États-Unis. Et donc, j'ai été sur des sites de téléchargement, Digital Comics, Digital Museum, digitalcomicsmuseum.com, notamment. Et j'en ai récupéré pas mal. Et au fur et à mesure que je les lisais pour comprendre qui étaient ces personnages, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux avaient un point commun. Et donc, je me suis fait la réflexion de me dire, tiens, c'est rigolo, ils ont un point commun, qui n'était pas du tout voulu à l'époque. Hein. Les scénaristes se concertaient pas, c'était juste, comme Xavier Fournier peut le dire, une idée qui était dans l'air, en vogue à l'époque, et que plusieurs scénaristes, dont plusieurs scénaristes étaient en Paris. Et je me dis, bah tiens, du coup, on pourrait imaginer de les faire rencontrer. Ils s'étaient jamais rencontrés à l'époque dans les publications originelles. Et à l'époque, Rinman ressortait une version de Strange, et il cherchait du matériel nouveau. Donc on est toujours en contact, mais on se connaissait déjà à l'époque, et donc je l'appelle et je lui dis, bah tiens, Reed, toi qui cherches quelque chose, j'ai une idée. Donc je lui explique mon idée, c'était pendant les vacances 2012. Et il me dit, ah, c'est cool, etc., je vais regarder ça, c'est super. Et puis il me rappelle quelques semaines après, en me disant, écoute, Jean-Michel, ça va pas le faire parce que bah, je connais pas aussi bien les personnages que toi, tu m'as donné un truc très, très light, entre guillemets, mais il faut que tu m'écrives une histoire, parce que sinon j'arriverai pas à la dessiner. Et c'est comme ça que bah, j'ai pris ma plume pour devenir scénariste de cette histoire. Et puis elle a maturé. Au départ, on devait faire 5 volumes. Et puis tout compte fait, ça s'est réduit à 4 volumes. Parce que, en cours d'écriture, on s'est rendu compte qu'il y avait un volume qui était trop délayé. Donc on l'a un peu resserré. Et puis voilà. Donc c'est depuis cette époque que date cet univers qui trotte dans ma tête.
Alors, comment est-ce que tu as construit l'histoire de Center Chronicles? C'est-à-dire, comment tu as bâti ton scénario?
Alors en fait, moi je suis pas un scénariste professionnel, donc je me suis plutôt servi de mon expérience d'historien, entre guillemets, des comics. Et donc j'ai bâti l'histoire de la première arche narrative en faisant un parallèle avec l'histoire des comics. Donc je suis parti des épisodes originaux que j'avais tous lus, ou quasiment tous lus, à l'époque, et au fur et à mesure que j'ai récupéré, maintenant on les a à peu près tous. Et puis, je suis parti des personnages, des caractéristiques, et à la fois du caractère des personnages, et je suis parti de cette base, et je me suis projeté en me disant, mais comment est-ce qu'ils vont évoluer? Comment est-ce qu'ils vont vieillir? Il y a un vrai souci de les faire évoluer, c'est-à-dire de ne pas les laisser dans un statu quo, comme on peut voir chez Marvel, chez DC. Donc, comment est-ce qu'ils vont évoluer et comment est-ce que le monde va évoluer autour d'eux? Donc, c'était ça mon histoire de base, c'était comment je raconte ça. Et puis, j'ai voulu faire un parallèle avec l'histoire des comics, parce que ce qui m'a aussi frappé, c'est que Centaur Chronicle, ça commence en 1936. C'est vraiment des personnages très précurseurs. Hein. Certains sont avant Superman, d'autres sont au moment de Superman. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses historiques, entre guillemets. Et donc, je me suis dit, bah, en 1935-36, il commence très bien, et puis il s'arrête en 1942. Et il y a un parallèle entre bah, les comics commencent, et puis après, il y a la fin du Golden Age, d'une certaine manière. Et donc, mon idée, c'était comment je vais amener les épisodes du moment où ils s'arrêtent jusqu'à un nouveau début de Silver Age. Et donc, on a construit l'histoire comme ça pour raconter cette chronologie. Alors, en 4 tomes, bien entendu, on raconte pas toutes les années, on raconte les événements marquants. Et je dirais partir de leur disparition pour arriver à leur réapparition.
Dans Center Chronicles, tu essayes de recréer en fait un style qui est celui de l'âge d'or des comics. Et comment en fait tu as procédé pour recréer cet aspect-là?
Alors, on a procédé de deux manières. Premièrement, comme je te disais, quand je cherchais un nouveau dessinateur, j'ai cherché un dessinateur qui aurait certaines caractéristiques des dessinateurs de l'âge d'or. Donc, je voulais pas un dessinateur entre guillemets trop moderne, à la Jim Lee ou des choses comme ça. Moi, dans mon esprit, si j'avais pu avoir l'artiste parfait entre guillemets, j'aurais pris Bob Powell, qui était un dessinateur qui a notamment dessiné avec Will Eisner dans la section du comic du Spirit, qui je trouve avait un style à la fois bien lisse, bien rond, bien clair, mais en même temps qui avait un style qui venait du Golden Age. Donc, Marty, le dessin de Marty, en fait, il correspond à ça. J'ai pas, entre guillemets, choisi Marty par hasard. Marty a accepté, donc ça a été parfait, mais j'allais le voir pour une raison bien précise. Et la deuxième manière qu'on a eue de recréer ce style, c'est que on alterne entre un épisode moderne dessiné par Marty, qui, d'une certaine manière, fait progresser une intrigue qui s'étendra sur les 4 volumes, et entre chaque épisode, on republie un épisode original des années 40 que Reedman restaure en termes de couleurs pour avoir quelque chose qui soit lisible par un lecteur moderne et qui fait écho ou qui met en abîme quelque chose de l'épisode moderne. Donc on alterne entre un style qui est proche du comics du Golden Age, une histoire qui se poursuit et entre chaque une respiration avec un style différents, parce qu'on a des artistes différents, hein, bien entendu, à l'époque, et qui, eux, sont vraiment des artistes du Golden Age. Donc c'est comme ça qu'on a marqué notre évolution, entre guillemets, dans les deux manières, je dirais, de raconter l'histoire.
Alors, dans la démarche, en fait, le projet Center Chronicles me fait beaucoup penser, par exemple, à Watchmen ou même à une autre œuvre, peut-être un petit peu moins connue d'Alan Moore, mais qui est suprême. Est-ce qu'il y a vraiment des points communs dans la démarche?
Alors, oui et non, en fait. La parenté, c'est très tôt, en fait, cristallisé, puisque quand on a sorti la deuxième version avec Fred Griveaux et donc avec 2 épisodes, l'épisode prologue et le premier épisode, un de mes amis et lecteurs, Jean-Michel Rumeau, m'écrit en me disant « Ah, c'est super, ça ressemble à Watchmen. » Et là, le mur de briques me tombe sur la figure, je me dis « Mais oui, il a raison, ça ressemble à Watchmen, le début ressemble à Watchmen. » Ouh là là, inconsciemment, j'ai donc d'une certaine manière repris la trame de Watchmen, ça va être un plagiat, on s'arrête. Et donc je lui réécris, on communiquait par mail, et je lui dis non mais t'as raison, c'est ridicule, tant pis, on arrête, etc. Et il me dit mais non, pas du tout, je disais pas ça pour être méchant, c'est même bien d'être comparé à Watchmen plutôt qu'à autre chose, mais j'espère que ça va bouger, enfin, ça va s'éloigner de Watchmen. Et donc là, je me suis posé la question de déjà quelles étaient mes inspirations, et ensuite, pourquoi est-ce que c'était différent de Watchmen? Alors, c'est différent de Watchmen parce que même si mon idée de départ est équivalente à celle de Watchmen, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans un monde où il y a des super-héros? Comment est-ce que le monde évolue à la fois sociologiquement, scientifiquement et historiquement? Mon intention, ce n'est pas comme Alan Moore de déconstruire le mythe du super-héros et à la fin de Watchmen de ne plus avoir de super-héros, parce que dans Watchmen, ils disparaissent tous d'une certaine manière.
Tout à fait.
Voilà, donc mon but, c'est l'inverse. Et comme je te disais, c'est de passer du Golden Age au Silver Age et donc de faire un basculement de héros un peu naïfs, patriotiques, dans un monde manichéen, bipolaire, vers autre chose, qui est quelque chose d'un peu plus compliqué dans le Silver Age. Avec voilà une réflexion sur eux-mêmes, sur la société, etc.
Ouais.
Donc ça, c'est pour répondre vraiment à ta première partie. Et par rapport à ta deuxième partie, tu as totalement raison. Et je rajouterai une troisième œuvre. Quand je me suis posé Watchmen, oui, mais inconsciemment, parce qu'en fait, c'est pas tant que ça. Suprême, complètement. Ne serait-ce que parce que, au moment où Suprême est publié, tu as des épisodes modernes et des épisodes soi-disant anciens, mais qui sont des épisodes recréés, avec un autre style, un style beaucoup plus Golden Age. Et puis aussi, une œuvre qui m'avait beaucoup marqué à l'époque d'Alan Moore, qui est encore moins connue que Suprême, qui est Judgment Day. Et qui est toujours dans le monde Image, une sorte de Crisis on Infinite Earth, enfin pas tout à fait, mais une sorte d'explication de l'univers, de rationalisation de l'univers de Wildstorm, je pense, où Alan Moore voilà, expliquait un sujet de fond d'une certaine manière. Et donc ces trois œuvres de Moore, clairement, quand je me suis penché dessus, m'ont marqué et sont des vraies inspirations de Centaur Chronicles.
Alors, il y a à l'heure actuelle deux tomes de publiés de Centaur Chronicles. Hein. Le troisième, on le rappelle, est en financement sur Ulule. On vous mettra le lien hein, dans le, comment dire, dans l'article qui accompagne ce podcast. Ma question suivante, c'était de savoir comment le public a réagi à Centaur Chronicles. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait une communauté aux États-Unis d'amateurs des comics Centaur. Est-ce que cette communauté américaine a eu l'occasion de lire, de découvrir les épisodes que tu as écrits? Et puis aussi, quelle a été la réaction des lecteurs français?
Alors, la communauté américaine est au courant parce que le comics n'est pas encore sorti en version américaine. On compte le sortir bientôt en version américaine, sans doute à la fin de l'année par un Kickstarter. Mais ils ont vu en fait les illustrations parce qu'on a aussi une communauté d'artistes, amis, intéressés par le projet qui nous aident et qui nous font régulièrement des illustrations. Soit à l'occasion des campagnes de financement participatif pour alimenter un sketchbook qui est une des contreparties, soit par plaisir régulièrement dans les salons. Donc ils ont vu ces illustrations. On a pas mal d'Américains qui en fait régulièrement nous postent des messages sur la page Facebook en disant ah, c'est super, etc. Et on en a pas mal qui nous demandent mais quand est-ce que ça sort en américain? Quand est-ce qu'on peut le lire? Donc oui, il y a eu un vrai échange, une vraie réaction de ce public qui du coup. Enfin, pour moi, c'est vachement important parce que c'est des gens qui connaissent, eux, les personnages originaux et qui ont l'air intéressés. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Et puis après, il y a eu la réaction du public français. Donc le premier story arc, il est ordonnancé en quatre volumes. Le premier, c'est la Renaissance. Et on va dire, pour résumer, qu'on présente les personnages, qu'on introduit les personnages au lecteur, qui pour la plupart ne les connaît pas. Le deuxième tome, c'est les origines. Donc là, on présente vraiment ce point commun dont je parlais et qui permet aux gens de se dire, bah voilà, ils ont une origine. Tous les gens qui ont des super pouvoirs, ils ont une origine entre guillemets commune. C'est pour ça qu'ils ont des super pouvoirs. Le troisième tome, c'est l'adversité. Donc les gens n'ont pas encore lu, en tout cas très rarement, parce que j'ai quand même diffusé par-ci, par-là. Et puis le dernier tome, c'est le dénouement. Et donc à la fin, comme je disais, on partira d'une certaine manière du Golden Age et on arrive au Silver Age. Alors, les réactions étaient bonnes sur les deux premiers tomes. J'ai rarement eu de critiques. J'ai plutôt eu des gens qui disaient c'est bien, c'est beau, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire respirer et donc être entre l'épisode moderne et l'épisode restauré, je mets du rédactionnel. Donc, il y a une page sur soit un artiste, l'artiste qui a créé le personnage dont on parle majoritairement dans l'épisode moderne. Soit une mise en contexte pour que le lecteur puisse mieux comprendre pourquoi j'ai fait des choix et je mets vraiment en avant mes choix en disant voilà, j'ai fait tel choix pour telle raison, il y avait telle problématique ou telle incertitude, j'ai choisi, etc. Puis il y a bien entendu une introduction, une conclusion, voilà, on essaye vraiment d'amener. Donc les gens me disent c'est très intéressant parce que aussi il y a ce rédactionnel. On apprend des choses, y compris des gens qui connaissent bien les comics. Ils me disent ça c'est sympa parce qu'on suit ton raisonnement. On suit du tout part. Donc les deux ont eu de très bons retours, et surtout le deuxième. Parce que bah, dans le deuxième, comme on connaît les personnages qui ont été présentés dans le premier, on est rentré un peu plus dans le vif du sujet. Il y a aussi un peu plus d'action. Et du coup, il y a une surprise. Il y a plusieurs surprises. Donc déjà, les gens découvrent ce lien, qui pour moi est maintenant hyper logique, mais pour les gens, c'est une découverte. Et puis voilà, il y a bien entendu, comme dans tous les comics, des cliffhangers, des choses un petit peu haletantes. Donc les gens, et quand on sort les tomes, en tout cas pour les deux premiers, ça a été le cas, on a eu de nombreux messages disant mais quand est-ce qu'est le prochain? Parce que les gens, ils veulent savoir la fin.
Le prochain, c'est maintenant.
Et le prochain, c'est maintenant,
Voilà.
exactement.
Faut pas rater le coche, c'est, il reste quelques jours.
Ouais.
J'ai vu dans les contreparties de la campagne qu'il y avait un crossover de prévu avec le personnage du garde républicain. Alors, le garde républicain, c'est pas un personnage du tout de, comment dire, que tu as inventé. Et comment est arrivée cette idée du croisement entre les personnages de Center Chronicles et du garde républicain?
Ben écoute, ça vient d'une discussion avec Thierry Mornay, Terry Stillborn, qui est le créateur du Garde Républicain et qui est un fan de Centaur Chronicle, et qui me dit, ah, ça serait cool qu'on fasse un crossover entre Centaur Chronicle, que j'aime beaucoup, et le Garde Républicain. Et donc, au départ, j'étais dubitatif, parce que moi, mon idée, c'est vraiment d'avoir une chronologie, une continuité resserrée. Et donc d'avoir, je dirais, à chaque fois que j'écris un épisode, quelque chose de significatif pour la progression ou la compréhension de l'univers. Et je lui dis, ah ouais, ça serait cool, Thierry, mais comment est-ce qu'on va se faire rencontrer le garde républicain et Centaur Chronicle, quoi? Ça me paraissait quand même compliqué. Et puis, c'était à l'époque, je finalisais le scénario du troisième volume pour l'envoyer à Marty pour qu'il planche sur le storyboard. Et on va dire que dans le début du troisième volume, deux de nos héros arrivent en retard. C'est pas qu'ils arrivent en retard, c'est pas qu'ils ratent un rendez-vous, mais ils ont une mission et il y a des impératifs. On imagine qu'il y a eu des impératifs qui ont fait qu'ils ne sont pas vraiment arrivés au bon moment. Et donc, j'avais pas prévu d'expliquer. Voilà, ils arrivent en retard, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est juste avant le débarquement. Et donc, bah, c'est les impératifs de la guerre, ils arrivent un peu en retard par rapport à leur planning. Et puis, là, je me suis dit, parce que moi, je suis aussi un gros fan du Garde républicain, donc j'ai lu tous les tomes, et notamment un tome qui a été écrit par Roy Thomas, qui est alors, à la fois un ami et un scénariste que j'aime beaucoup, hein. Et il a beaucoup fait de choses sur la Seconde Guerre mondiale, avec les Invaders chez Marvel, le All-Star Squadron chez DC. Et il a écrit un album du Garde républicain qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, je me dis, ah bah, du coup, là, on pourrait à la rigueur faire quelque chose. Mais bon, ils ne sont pas dans le même univers, donc ils n'ont aucune raison de se rencontrer. Et puis, en creusant au fur et à mesure, je me dis, ah, on pourrait peut-être faire quelque chose quand même. Donc, j'ai commencé à écrire un scénario. Et comme d'ailleurs dans toute l'aventure de Centaur Chronicle, il y a eu ce que j'appelle moi des heureux hasards. Et qui correspond à un mot français que les Anglais utilisent beaucoup, qui s'appelle la sérendipité. En anglais, on dit serendipity, qui est que tu découvres quelque chose sans avoir voulu le chercher. C'est-à-dire, c'est une sorte d'évidence qui te tombe dessus. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je me disais, ah non, mais ça serait bien qu'il y ait quelque chose à tel endroit, quoi, physiquement, en France, géographiquement. Et en faisant des recherches, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui correspond un peu à ce que j'avais besoin. Et donc comme ça, de fil en aiguille, j'ai écrit un scénario et puis je l'ai envoyé à Thierry et puis à Jean-Marc L'Officier en disant bah, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que du coup, ça rentre dans ma chronologie, ça aide même mon récit. Ils m'ont dit bah, c'est cool, c'est exactement ce qu'on voulait. Et voilà, donc c'est lancé. On a reçu les 11 premières pages crayonnées ancrées de José Luis Lopez, qui est un dessinateur qui a déjà travaillé pour Hexagone Comics et le Garde républicain. Et donc, voilà, donc le scénario est entièrement fait, il a été envoyé, et donc on reçoit les planches pour que, en octobre-novembre, il sorte en même temps que le troisième volume.
Alors, toi, personnellement, en fait, quel bilan tu tires de la sortie de ces trois, alors des deux premiers tomes de Center Chronicles et puis de la création de ce troisième tome?
Ah. Alors, bon, déjà, j'en tire une satisfaction personnelle. Parce que c'est moi qui accompagne l'intégralité de la chose. J'ai fondé une petite société pour l'éditer. C'est moi qui fais la communication majoritairement. C'est moi qui coordonne. Donc, j'ai le rôle de scénariste et, comme disent les Anglais, des Américains, d'éditeur. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Ça me permet de vraiment voir. Naître d'une certaine manière cette idée, et avant tout, c'est ça qu'on veut porter jusqu'au bout, c'est cette première idée. Donc, ça, c'est vraiment très satisfaisant. Deuxièmement, la réaction du public, on en a parlé. Il y a quand même très très peu de gens qui ont dit c'est pas terrible ou ça pourrait être différent, etc. Donc ça, c'est aussi un bon retour et ce qui est quelque chose qui me fait très plaisir. Donc ça fait maintenant quand même 3 ans qu'on tourne avec ça et on a refait certains festivals et les gens viennent me voir. Alors la suite est arrivée. Alors ah bon, oui, je l'ai acheté l'année dernière ici et je veux avoir la suite. Donc ça, c'est vraiment satisfaisant. Ce qui est un peu moins facile, c'est la difficulté à diffuser, c'est-à-dire la difficulté à ce que les gens puissent avoir accès, choisir, le découvrir et potentiellement y revenir. Bah, parce que on est une petite structure, c'est des petits moyens et donc on a un peu de mal à, je dirais, passer cette barrière. On commence quand même à avoir des gens qui découvrent, qui sont pas nécessairement des fans de comics. Il y a beaucoup de gens qui m'ont acheté au départ par amitié parce que ils me connaissaient et qui m'ont dit non, mais je veux vraiment la suite. Je l'ai vraiment lu et je veux vraiment la suite parce que j'ai envie de savoir la fin de l'histoire. Et puis en plus, ces intermèdes, ce rédactionnel, ça me permet de découvrir un monde que je connaissais mal, peu, pas du tout, ou même pour les spécialistes de comics, comme je dis, il n'y a pas beaucoup d'études sur Centaur Comics, donc les gens, ils découvrent quelque chose de nouveau, quoi. Voilà, donc ça, c'est les deux facettes, mais malgré tout, c'est énormément du positif. Et puis, voilà, il y a énormément de gens qui nous ont fait l'amitié de nous faire des choses. Le premier, c'est Mircea Rapu, qui est un dessinateur qui dessine pour PIF, on va dire, donc qui a dessiné du PIF, du Placide et Muso, et qui, le premier, nous a fait un hommage où ça s'appelle Amazing Placid et c'est la couverture du premier redessinée avec Amazing Man en Placide, en fait, de Placide et Muso. On a Patrick Dumas, qui est un dessinateur franco-belge, qui nous a fait un superbe Arrow, qui est notre archer, qui d'ailleurs est le premier archer de l'histoire des super-héros publié chez Centaur, qui nous a fait un archer un peu médiévaliste, comme il sait faire, parce qu'il connaît ses ambiances. Là, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il y a Laurent Lefebvre qui nous a fait un hommage à Amazing Man dans son style si extraordinaire et si particulier. Donc voilà, donc c'est tous ces moments-là que je retiens, même si de temps en temps, tu as des moments de doute, tu te dis est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va vraiment sortir, est-ce qu'on va réussir à toucher des gens, voilà. Mais du positif quand même.
Il faut que le tome 3 sorte, donc voilà, on rappelle, le lien est dans l'article, n'hésitez pas à aller sur la page Ulule, et même si même 5 euros le marque-page, etc., le moindre euro compte, donc n'hésitez pas à y aller et à participer à ce financement, il faut que ce tome 3 sorte.
Exactement.
Pour terminer cette interview, ce qui va devenir une tradition sur ce Top Comics, on aime bien interroger nos invités sur un top 3, mais à chaque fois sur un sujet un petit peu différent. Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. Si tu avais trois comics, alors j'allais dire du Golden Age, mais on va un petit peu élargir, allez, avant les années 2000, c'est dire si j'élargis. Trois comics à lire, vintage, rétro, old school, que tu conseilles.
Alors, je vais un peu tricher
Allez,
si ça te
vas-y.
dérange pas. Je dirais 3 blocs de comics, on va dire, et qui, pour les deux premiers au moins, ont une incidence avec Centaure. Le premier, on en a déjà parlé, c'est-à-dire quelques œuvres d'Alan Moore. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, Watchmen, Supreme, Judgment Day, je trouve que c'est vraiment un triptyque qui permet réellement de rentrer dans la manière dont Moore construisait ses univers. Watchmen, je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissent et c'est vraiment une claque. Enfin, moi, je l'ai découvert dans la première publication qui était sortie chez Aredit, où ils avaient sorti 2 tomes de Watchmen, ça s'était arrêté. Et puis, rapidement, j'ai vu que Zenda avait repris le collier, donc je les ai lus tous en entier. C'est vraiment une vraie claque, quoi. Je pense que ceux qui, à l'époque, l'ont lu, vraiment, c'était une rupture. Supreme et Judgment Day, c'est un peu différent, mais ça donne cet ensemble justement d'amoureux du Golden Age, tout en structurant quelque chose. Et notamment Judgment Day, je pense que c'est une œuvre très sous-estimée d'Alan Moore, que moi sur lequel j'ai une vraie grosse affection. Le deuxième bloc, c'est 2 œuvres de J.M. Straczynski, qui là aussi ont malgré tout soit inspiré, soit en tout cas que j'aime mettre en avant, y compris pour des gens qui connaissent pas bien les comics. C'est Rising Star, Je pense là aussi que c'est un comics vraiment novateur, avec une histoire complète, avec une spécificité. On sait pourquoi ces enfants ont des pouvoirs. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et puis The 12, les 12, qui a été publié chez Panini, je crois, où il reprend 12, 12 personnages un peu has-been de l'âge d'or du comics et il en refait quelque chose, quoi. Et là aussi, il est dans la tradition, dans la continuité de ces Invaders, des All-Star Comics qu'a fait Roy Thomas. Et je trouve que c'est vraiment des choses vraiment très très bien et voilà, que je mets en avant. Et puis le troisième, alors lui, c'est un vrai comics qui en plus sort bientôt chez Urban, c'est le Etrigan de Jack Kirby. J'étais petit quand je l'ai découvert, je devais avoir 8-10 ans et c'est resté pour moi un des personnages les plus extraordinaires. De la création du comic, c'est Jack Kirby. C'est pourtant pas son plus connu, mais je le trouve vraiment avec une cohérence, quelque chose d'extraordinaire. Et je le relis toujours avec grand plaisir dans mes vieux pocket à Reddit démons. Et vraiment, c'est quelque chose sur lequel je pense on peut et on doit se repencher. Et comme Urban le sort, bah, c'est l'occasion.
Merci Jean-Michel Ferragati d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Mais c'est moi Stéphane, merci beaucoup et à tous les auditeurs.